Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Pour cette première chronique consacrée à la bande dessinée historique, j'ai choisi de vous parler de La Croisade des Innocents, un album de Chloé Cruchaudet, publié par les éditions Delcourt dans la collection Noctambule. La Croisade des Innocents, c'est un magnifique album qui raconte une croisade mythique, la croisade des enfants, une croisade dont on ne sait même pas vraiment si elle a existé. On a quasiment aucune source sur cet événement. Et Chloé Cruchaudet, qu'on connaît bien, les lecteurs de bande dessinée se rappellent tous Mauvais Genre, va s'emparer de cette histoire pour tricoter un conte tragique, une histoire initiatique qui met en scène des enfants en train de devenir de jeunes adultes dans un contexte difficile qui n'est pas sans rappeler notre époque. Je l'ai donc rencontré il y a quelques jours dans un café à côté de la maison de la radio.
Vous avez une façon de raconter les histoires et de nous faire rentrer dans les histoires qui à chaque fois est très enrichissant. On s'y attend pas et on est... ça y est, on est attrapé et on peut plus...
J'en suis ravi parce que...
On peut plus s'en défaire. Quoi.
C'est ce que j'essaye de faire, de pas... De faire en sorte que le lecteur lâche pas et a envie de tourner la page suivante et arrive à être immergé un peu dans l'aventure.
Je pense une question très très bateau. Comment vous avez eu... Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire?
J'avais une source très très mince. Il y a plus d'une quinzaine d'années, j'ai vu un tout petit article dans un magazine d'histoire. Je vous avoue, je ne me souviens même plus à lequel c'était précisément, qui parlait donc d'une croisade menée par des enfants. Et en disant bien, ben, on a très peu de sources. Il y a même certains historiens qui remettent en cause son existence même. Et voilà, paraît-il, il y a des témoignages tardifs qui explique qu'il y a eu un groupe d'enfants qui sont descendus du nord de la France jusqu'à... Enfin, ils se sont arrêtés à Marseille pour aller délivrer le tombeau du Christ. Et il y en a eu une autre qui est partie d'Allemagne, qui sont pratiquement à la même période. Et donc, c'était tellement bizarre, énigmatique, que j'y ai repensé pendant des années et des années. J'ai accumulé de la documentation... sur le Moyen-Âge, parce qu'en tant que tel, c'est une période que je trouve passionnante. Bon, ça sert à, c'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'elle s'étale sur tellement longtemps que ça n'a pas trop de sens. Mais en l'occurrence, là, ce 13e siècle, je trouve que c'est un peu une période charnière qui est très riche. Et donc voilà, j'ai accumulé des questionnements, de la documentation. Et après, les événements qui ont eu lieu à Paris avec les attentats, etc., ça a un petit peu nourri ce questionnement-là sur la construction des religions, le formatage des jeunes cerveaux. Et donc ça a un petit peu motivé le fait que je m'y mette, quoi. Je me plonge dedans.
Ah oui, parce que je me posais la question du rap. Quand on lit l'album... On sent bien qu'il y a une résonance avec l'actualité, mais j'avais pas fait le lien moi avec justement ces.
Bah, tant mieux, parce que j'avais pas du tout envie que ça soit trop évident. On n'est pas à la même période, c'est même pas la même religion, mais en tout cas, pour moi, c'est quand même il y a quand même un espèce de socle commun sur comment des cerveaux immatures. S'imprègnent à la base d'une histoire qui leur permet de survivre, mais qui devient une espèce de fantasme qui est totalement faux, quoi. Et ça
Parce
part
que
très très mal.
Ce qui est très emballant, dans tous les sens du terme, c'est que vous avez aussi pris la forme du conte, un peu pour raconter cette histoire. C'est pas juste un récit historique. On est vraiment dans un conte, avec du merveilleux, avec des enfants perdus. Enfin, qu'est-ce qui vous a conduit à adopter cette forme du conte pour raconter cette, cette histoire qui est dramatique.
En fait, j'ai essayé de mettre en place toute une réflexion sur les histoires en elles-mêmes. Alors du coup, ça fait une espèce de mise en abîme un peu vertigineuse. C'est-à-dire que moi, je raconte une histoire d'histoires d'enfants qui eux-mêmes racontent des histoires pour survivre, et au sein d'une grande histoire qui est pour moi la religion. Parce que pour moi, toute la construction de la religion, c'est juste une histoire qui a bien pris, qui a eu un bon plan marketing, qui a parfaitement marché, et c'est ça qui est aussi ultra intéressant, c'est comment est-ce qu'on finit par croire à ses propres histoires. Toutes les récits de grands menteurs qui eux-mêmes se laissent prendre à leurs propres mensonges, finalement c'est un petit peu ça qui leur arrive à ces enfants, parce que ça les arrange bien de croire à cette histoire bizarre de rencontre avec le Christ, etc. C'est juste au fond d'eux-mêmes un prétexte pour s'enfuir, quoi, tellement les conditions qu'ils vivent sont difficiles.
Si on me racontait ça avec des adultes, ça me paraît très très... J'aurais encore plus de méfiance, mais avec des enfants, je trouve qu'on y croit très facilement, quoi. S'il n'y a pas de doute, quoi.
C'est au fait qu'ils puissent entreprendre ce voyage, déjà on vit dans un...
C'est très innocent, je trouve.
Ouais. Presque. Mais je pense que même si ça se passe au Moyen-Âge, la physiologie des enfants n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le besoin de jouer, le besoin de s'imaginer plein de choses, des histoires, etc. Et quand ils pensent que la mer va s'ouvrir devant eux, puisqu'on leur a raconté, pour moi, c'est effectivement, ça paraît tout à fait vraisemblable qu'ils aient pu intégrer ce fait-là. Et je pense que toutes les jeunes adultes qui croient que quand ils seront morts, ils vont retrouver des vierges au ciel, moi, ça me paraît tout aussi farfelu que des histoires de mères qui s'ouvrent. Donc je pense que des fois, on s'habitue à des choses complètement extravagantes qui sont quand même des religions qui sont omniprésentes autour de nous, qui sont aussi farfelues que des histoires que des enfants peuvent se raconter, quoi.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que même dans la vraie histoire, les enfants qui partent ne savent pas comment traverser la mer, mais leur guide leur dit « mais la mer va s'ouvrir devant nous comme elle s'est ouverte pour Moïse ».
Voilà, il y a cette espèce de foi dans leur innocence, le fait que ce soit des cœurs purs, et que par ce fait-là, ça les protège. Ça les protégera de toutes les embûches qu'ils vont connaître lors de cette aventure. Donc ils y vont vraiment sans appréhension, en étant persuadés qu'ils sont tout à fait légitimes à mener cette aventure-là. D'autant plus que les croisades précédentes menées par des adultes ont échoué, que ça a été une catastrophe, et que d'ailleurs il y a eu des barbaries qui ont été commises au sein des croisades précédentes, et eux-mêmes vont un peu tomber dans ces travers-là. Donc c'est un peu pour déconstruire aussi cette espèce d'image de l'enfant innocent et pur.
Oui, en même temps, ça se passe plutôt bien pour... Enfin, c'est pas facile, hein, mais ça se passe plutôt bien pour eux jusqu'à la fin, en fait.
Ah ben, je pense que le pouvoir de l'imagination peut faire des miracles. Mais là, parfois, ils s'en servent vraiment de manière intelligente. Au début, cette idée de créer des petits théâtres ambulants pour gagner 2-3 sous, c'est une idée d'enfant, de cerveau immature, ça fonctionne. Donc je pense que les enfants peuvent avoir un grand pouvoir grâce à leur imagination.
Même des curés au début, parce que c'est un curé qui leur montre ça.
Oui, ils s'inspirent du catéchisme qu'ils ont reçu. Mais jusqu'à un certain point, après un certain stade, en fait, ils sont complètement rattrapés par des choses très pragmatiques. La gestion du groupe qui devient une espèce de cellule qui grossit jusqu'à devenir incontrôlable, qui devient une espèce de tour de Babel avec du coup des enfants qui parlent des langues différentes, qui s'entendent plus vraiment. Et la faim, le froid, les disputes font que petit à petit, leur imagination va être étouffée sous ces choses pragmatiques qu'ils ont à régler.
Oui, ça les fait grandir.
Oui. Moi, c'est ça aussi que je trouvais passionnant dans cette histoire, c'est qu'il y a une espèce de tension entre le fait qu'ils rejettent complètement le monde des adultes. Enfin, je les ai imaginés comme ça. Et cette espèce d'illusion qui fait qu'ils ne voient pas vraiment le temps qui passe, et pourtant ils s'y précipitent quoi, vers ce monde des adultes. Surtout ceux qui sont plus âgés, qui sont à la bordure de l'adolescence, qui sont à la fois un petit peu attirés par ce monde des adultes et en même temps qui ont posé comme principe, on les rejette, et qui aimeraient bien en faire partie malgré tout.
Parce qu'il y a une des scènes, ça a l'air anecdotique, mais je trouve que c'est presque une des plus fortes du livre, c'est quand le guide met la main dans son pubis et se tire un... Je le raconte parce que c'est magnifique, parce que juste un petit poil, et juste avec ces trois cases, je crois, c'est une page, on est... Ça y est, il a fait le chemin, en fait.
Oui, bah oui.
Il est arrivé au bout, presque au bout.
Voilà, lui, là, il est déjà dans la compréhension que son idéologie de base était bien beau, mais qu'à un moment donné, il se fait rattraper juste par la physiologie et qu'il commence à devenir lui-même un adulte et qu'il va s'enfoncer de plus en plus dans quelque chose de très artificiel, de mensonger, finalement. Mais après, de manière que j'ai espéré ne pas trop lourde, j'ai voulu montrer aussi que... C'était à double tranchant, finalement, toutes ces histoires qu'on s'invente. Elles peuvent faire des choses merveilleuses, comme nous aider à survivre, et en même temps, les histoires qui deviennent un dogme et qui prennent bien, et qui, comme les religions, ça peut complètement aller à l'encontre de la nature humaine, parce que cette histoire de la pilosité, la chair, c'est mal, la sexualité, c'est mal, c'est quand même... On a été victime de ce dogme de chrétien pendant des siècles et des siècles, et encore jusqu'à maintenant.
Oui, on est encore... Il y a des retours de bâton.
Oui.
C'est pas terminé encore.
Ouais. Mais si on... En tout cas, si on doit plus parler de cette période du Moyen-Âge, c'est vrai que ce qui m'a tout petit peu posé question, ça m'a un peu dérangé de faire le choix, quelque part, de montrer un Moyen-Âge très violent, très dur, etc., pour les besoins de la narration, parce que j'avais besoin qu'ils aient un moteur pour leur aventure. Mais je me suis bien rendu compte, en me documentant, que le Moyen-Âge, c'était le 19e siècle, surtout, qui avait construit l'image qu'on a encore du Moyen-Âge, et que c'était pas forcément sale, ni... C'est pas une période si sombre que ça, et surtout, il y a plein de périodes différentes. Quoi.
Non, c'est pas ça, mais cela dit, cette histoire précisément, quand on se penche sur la véritable histoire de la croisade des enfants, d'abord, on ne sait pas si c'est vraiment des enfants qui l'ont faite, parce que ça s'appelait Pueri, je crois.
Ouais, voilà, il y a un petit... sur le mot, effectivement, il y a
être
un
des
petit
pauvres,
litige.
Mais est-ce que c'était des super pauvres qui ont entrepris... donc c'est un monde quand même très violent, où on a faim, froid...
Ouais.
On traverse les montagnes pieds nus comme les migrants, même si c'est pas du tout pareil. Il n'y a aucun parallèle à faire entre les migrants et ses enfants.
Si ce n'est qu'ils sont obligés de s'enfuir par nécessité, quoi, quand même.
Oui, c'était l'autre chose, c'est que dans le livre, il y a un déclencheur de tout ça. C'est l'annulation de la fête des fous, en fait, si j'ai bien saisi. Et pourquoi à ce moment-là, les enfants... passe à ce projet, en fait.
Il me fallait un petit incident déclencheur, et j'ai retrouvé ça dans les archives. Il y a eu une année, je crois que c'est précisément en 1212, où la fête des fous a effectivement été annulée, parce que l'année précédente avait été déjà très dure, il y avait eu une famine, de la sécheresse, etc. Et qu'en plus, on s'était moqué trop violemment du clergé. Et du coup, le roi, l'année suivante, l'a fait interdire. Et je me suis imaginé que ces enfants qui trimaient comme ça toute l'année, qui en bavaient, ils avaient un moment où ils pouvaient se défouler, un moment où, lors de ces fêtes des fous, en fait, les rapports sociaux étaient inversés, on pouvait se permettre de mal parler à ses maîtres, d'aller embêter le clergé, etc. Et que de ne pas avoir cette soupape de décompression, ça les a rendus complètement incontrôlables, et que là, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, quoi. Donc voilà, j'ai pris ce petit incident-là pour montrer que, là, il y avait le germe d'une rébellion, et qu'ils décidaient de faire leur petite fête à eux, où ils utilisaient les costumes qu'ils avaient prévus, qu'ils n'ont pas pu utiliser, et qu'à ce moment-là, voilà, il y avait cet incident-là où... on ne sait pas très bien au début si Cola a réellement vu quelque chose ou pas, mais bref, il brode autour de ça pour changer leur quotidien qui était
vraiment. Oui, en fait, qu'il ait vu ou pas vu, enfin, ça, il est non. sûr de l'avoir vu, lui. Ça, c'est,
ouais.
c'est la seule chose qui importe, quoi.
Oui, et puis j'ai essayé de construire les personnages, en fait, ça, je pense que le lecteur le voit pas forcément, mais sur le modèle biblique, c'est-à-dire que Cola, c'est Jésus, Camille, c'est Paul, et qu'il y a tout un tas d'apôtres autour de lui, et qui finalement, à un moment donné, un peu manipulent le Messie qui est devenu Cola pour leur propre intérêt. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit un petit peu leur caractère, et au tout début, on retrouve souvent ça, hein, de toute façon, c'est une espèce d'homme de paille qui est manipulé par les gens autour de lui, qui au bout d'un moment, il se prend au jeu, ça le valorise, et il finit par, par vraiment devenir un vrai messie, quoi, et en rajouter, mais au début, c'est juste... Voilà, il se fait un petit peu manipuler par ses amis.
Alors, dans ce récit, il y a beaucoup de garçons. Mm. Il y a quelques filles. Des filles qui sont accessoires, en tout cas dans l'histoire générale. Mais il y a un personnage qui est vraiment un très joli personnage, qui est la petite sœur de Cola.
Margot.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui est Margot ? Moi, j'ai été très, très touché par cette fillette. Qui elle fait un voyage encore plus grand parce que ça on le sait qu'à la fin mais
Margot donc c'est la petite sœur de Cola qui a une espèce de vision de Jésus lui intimant d'aller délivrer son tombeau et au début de l'histoire il y a donc un incident avec sa petite sœur où par mégarde en fait il l'a fait tomber dans l'enclos des cochons. Et il est persuadé que voilà, ça a été dramatique. Son père découvre ça et ça le mène en fait à s'enfuir de chez lui. Il est tellement choqué par cet événement qu'il perd l'usage de la parole, qu'il retrouvera après la rencontre du soi-disant Christ. Et on retrouvera ce personnage de Margot plus tard parce qu'elle va rejoindre en fait la croisade. Et ce personnage du coup. J'ai trouvé que c'était intéressant de montrer une petite fille dans toute son innocence, mais en même temps complètement défigurée, et qui reste très mignonne, mais qui tient des propos orduriers, qui fait des proutes avec sous les bras. Et en fait, c'est un petit peu l'élément perturbateur, c'est-à-dire que là, elle, quelque part, elle a été témoin du passé de son frère, que... C'est pas tant un messie pur et innocent qu'avant il gardait juste les cochons et que c'était un petit garçon comme les autres. Donc ça va être un petit peu le petit grain de sable dans le rouage qui va faire que voilà, il y aura peut-être des doutes qui vont commencer à s'insinuer. Et en même temps, elle a elle-même quand même une forme de pureté, c'est-à-dire qu'elle défend toujours son frère envers et contre tout. Et voilà, sans dévoiler ce qui va se passer ensuite, elle aura vraiment un rôle déterminant jusqu'à la fin de l'histoire.
Oui, parce qu'elle le soutient, elle le critique.
Ouais.
Et en même temps, comme c'est sa sœur, il n'y a pas d'histoire de séduction. Mmh. Ça aussi, on n'est plus habitué en fait à ce genre de personnage. Mmh. On s'attend toujours à, il va être séduit, il va être tenté, mais justement, il y a un autre rapport plus intrigant qui s'est installé. Au fur et à mesure de toute l'histoire avec cette petite sœur.
Oui, puis l'autre personnage féminin, en fait, c'est qui intervient ponctuellement, mais qui me semble à son importance. Et à un moment donné, donc il y a un noble qui rejoint la croisade, un jeune adolescent qui est accompagné de deux prostituées. Il y en a l'une d'entre elles. Lizou qui a finalement un petit peu le même esprit que Margot, c'est-à-dire une espèce de bon sens, un petit peu brut, et qui est, je l'ai représenté proche de la nature, qui connaît les plantes, qui connaît un petit peu éventuellement des techniques de survie, et voilà, qui vient elle aussi un petit peu perturber l'idéologie de ce petit groupe en faisant des réflexions extrêmement... Voilà, pragmatique sur maintenant, pourquoi est-ce que tu parles tout le temps d'innocence, ça n'a pas de sens. Voilà, elle lui assène quand même des vérités à la fois assez dures et en même temps qui le bouleverse un petit peu. Et je pense qu'il devait y avoir potentiellement ce genre de personnalité dans un groupe d'enfants, des gens peut-être des jeunes qui avaient une. comment dire, une fantasmagorie un peu plus païenne, qui connaissait la nature, etc., et qui était peut-être moins imprégnée de religion, et qui venait voilà, un petit peu perturber
oui,
cette, cette idéologie.
Enfin, esprit critique, c'est pas tellement le bon mot, quoi, mais c'est presque ça.
Oui, oui, c'est, moi je pense que c'est ça, effectivement, un bon sens un peu critique. Et vous, si vous êtes féru d'histoire, il n'y a rien qui vous a interpellé?
Non, parce que... Non, parce que quand je lis ça, moi je lis pas une...
Ouais, vous faites la part des choses.
Ouais, c'est une... Comment dire, la base est historique. Mmh. Et ensuite, c'est une... D'abord, on sait rien, quasiment rien sur cette affaire. On peut raconter... Enfin, avec toutes les bornes que vous avez mis dans le livre, d'ailleurs. Mais c'est une histoire, donc c'est ça qui est, que je trouve bien, moi, c'est qu'on me raconte des histoires avec l'histoire.
Bon, bah c'est...
Et soit c'est crédible, ouais. Et puis...
Tant mieux si on arrive à faire la part des choses. C'est arrivé hein, que j'ai des retours pour mauvais genre, que l'uniforme des soldats, il n'y avait pas les bonnes bottines.
C'est n'importe quoi, ça. Non, mais oui, mais j'en connais plein, des gens comme ça, mais je leur dis, soit tu lis une thèse de troisième cycle, et à ce moment-là, ta critique, elle est légitime, mais si tu lis une œuvre d'art, enfin, oui, lire une œuvre d'art, Mademoiselle d'Avignon, personne ne se pose la question de savoir si elles étaient vraiment comme ça, quoi.
Après, ça dépend aussi du parti pris graphique, moi, je suis pas dans l'hyper-réalisme et dans la précision.
Ça dépend du... Ouais, il y a ça, mais ça dépend du... l'intention de l'auteur en fait. S'il commence à nous donner des leçons non-stop en disant c'est comme ça, voilà, on peut commencer à critiquer sur les boulons, sur les boutons, sur tout ça, mais si on est dans une sorte de conte, une rêverie, on peut, enfin, tout va bien. Quoi.
Bulle d'histoire. Hein ? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.